Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Ber, même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Monsieur Dan, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. Les Pinas ont repris la navette entre Tombouctou et Raourous après 2 semaines de suspension de leurs activités. Les conducteurs dénoncent les raquettes des hommes armés dans les postes de contrôle. L'organisation de la première édition de la Semaine de la Réconciliation Nationale est à pied d'œuvre. Le lancement officiel des préparatifs a eu lieu ce week-end à Bamako. Le thème retenu est « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». Des responsables de la CMDT, Compagnie malienne de développement du textile, sont à Kadjolo. Objectif, constater l'état de la culture du coton dans le cadre de la campagne cotonnière 2022-2023 dans le cercle. À la présentation, Mariam Maïga, Mamadi Keïta assure la technique. Je vous le disais dans les titres, les Pinas ont repris la navette entre Tombouctou et Raourous dimanche dernier 4 septembre. Cela après 2 semaines de suspension de leurs activités suite aux raquettes des hommes armés dans les nombreux postes de contrôle. Cet arrêt de travail avait provoqué la colère des populations. Pourtant, la coordination des mouvements de l'Azawad CMA à Tombouctou affirme qu'elle n'a qu'un seul poste opérationnel sur ce axe et qu'il n'oppose aucune contrainte au trafic. Le point avec Draman Maïga.
Le trafic a repris. C'est en ces mots qu'un conducteur de Pinas, joint par la rédaction, nous affirme son soulagement. Selon lui, la navigation sur le fleuve se déroule normalement depuis ce dimanche 4 septembre. Ces conducteurs de pirogues motorisées appelées Pinas avaient observé 2 semaines d'arrêt de travail suivi de sit-in. Objectif, dénoncer les raquettes des hommes armés au poste de contrôle érigé sur les berges du fleuve entre Tombouctou et Gourmararous. Dans une note, la coordination des mouvements de l'Azawad CMA affirme qu'elle n'avait que 4 postes entre Tombouctou et Raourous. Aujourd'hui, un seul poste de sécurité est opérationnel, c'est celui de Didi, ajoute la note publiée sur les réseaux sociaux. Et ce poste n'oppose aucune contrainte au trafic des commerçants et transporteurs, toujours selon la CMA. Alors qu'une source qui fait la navette sur l'axe a confirmé qu'il y avait plus de 6 postes, et que les Pinas payaient à tous ces postes contrôlés par des hommes armés. Ce dimanche, les postes ont été levés. Nous avons recommencé la navette, conclut-elle.
À Gourmararous, les populations confirment l'existence de ces postes. Selon elles, ces postes sont souvent intimidants. Écoutons cet habitant sous couvert d'anonymat, joint par Draman Maïga.
Ces derniers temps, les postes de contrôle de groupes armés se multiplient tout au long du fleuve. Ils fatiguent vraiment les populations. En plus des marchandises, les PNAS assurent le transport des populations, car il n'y a pas une bonne route terrestre qui lie toutes ces villes et villages, surtout en cette période hivernale. Les raquettes deviennent de plus en plus fréquentes dans toute la région, même dans les cercles de Diré souvent. Ça doit cesser, car l'arrêt des PNAS peut paralyser toute la région et provoquer des problèmes humanitaires et économiques.
Et réagissez à toutes ces informations en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Les préparatifs des activités de la première édition de la Semaine de Réconciliation Nationale ont été lancés ce week-end à Bamako. Le thème retenu pour cette première édition est « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». Selon le gouvernement, cette semaine vise à restaurer la paix et à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Un reportage de Halima Yattara.
Pour le ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion nationale, colonel-major Ismaël Ouagé, cette semaine est symbolique car elle précède à la commémoration de la fête de l'indépendance du Mali, déclare-t-il.
Depuis une décennie, le Mali connaît une crise multidimensionnelle. Par la loi numéro 2019-042 du 24 juillet 2019 portant loi d'entente nationale. L'objectif majeur de cette loi est de renforcer la réconciliation et le pardon entre les Maliens. Elle consacre dans son article 7 l'institution de la Semaine de la Réconciliation Nationale.
Pour le comité d'organisation, les activités prévues pour cette semaine permettraient d'atteindre leurs objectifs, celui de réunir tous les Maliens. Lieutenant-colonel Bintou Sangaré, conseiller technique au ministère de la Réconciliation Nationale.
Nos attentes souhaite, c'est que les Maliens et les Maliennes se retrouvent autour de la réconciliation. Vous savez que le Mali est un pays pluriethnique et notre charme, la valeur de notre pays, c'est la diversité. Nous devons vraiment optimiser les avantages de cette diversité pour aboutir à la cohésion sociale.
Notons qu'au cours de cette semaine de la réconciliation nationale, il y aura des débats sur l'éducation, les arts et la culture, la citoyenneté, le sport et entre autres. Elle débutera le 15 septembre et prendra fin le 21 septembre 2022.
Autre titre de l'actualité du jour, plusieurs localités du pays ont enregistré de fortes pluies ces derniers jours, provoquant des inondations. À Kuchala et Fana au sud et Bourem au nord du pays, ces inondations ont causé des effondrements de maisons. D'autres dégâts matériels ont été signalés dans ces localités selon les populations. Celles-ci s'inquiètent d'ailleurs de ces pluies diluviennes qui deviennent fréquentes selon elles. Les détails avec Khalifa Gouita.
198 ménages sur 312 sont gravement touchés par les inondations dans la commune de Bourem à ces jours. Ces ménages ont subi des effondrements de maisons, des pertes d'animaux et des biens matériels emportés par les eaux de pluie. L'accès entre Bourem et Gao sur la route nationale 18 est aussi difficile à cause de la rupture d'un pont par les eaux de pluie, mais pas de pertes en vie humaine, rapportent des sources municipales. Si certaines familles sinistrées sont hébergées par des voisins, d'autres sont aussi sous des tentes données par des humanitaires. Ces personnes sous le choc psychologique ont été secourues en urgence par la mairie et des personnes de bonne volonté. Mais elles ont toujours besoin d'aide alimentaire et d'autres natures, affirment les mêmes sources. À Fana, dans la région de Djouila, la mairie a recensé plus de 100 sinistrés des inondations de samedi dernier. Même si le nombre exact des maisons tombées n'est pas encore connu à ce stade, des sans-abri sont logés chez des personnes de bonne volonté et au groupe scolaire, nous confie une source à la mairie. La mairie de Fana demande de l'aide à l'État et à ses partenaires. Ce même samedi, la ville de Kuchala a reçu 98 mm de pluie. Pas de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Nos tentatives pour avoir le bilan définitif des dégâts avec le gouverneur sont restées vaines.
8 heures passées de 7 minutes au quartier Angoulême de Ségou. Sur place, l'extraction du sable est une activité très florissante. Cependant, la saison diluvienne pose d'énormes difficultés à ce domaine. En dépit de la rentabilité de cette activité, elle reste moins structurée parmi tant d'autres. Il nécessite une meilleure organisation pour non seulement absorber le chômage des jeunes, mais aussi augmenter et sécuriser le profit de ses acteurs. Un reportage de notre correspondant à Ségou, Mohamed Sissé.
Le travail du sable a été toujours une activité rentable pour la population de Ségou. Mais la forte pluviométrie avec son corollaire de fleuve en crue fait que les acteurs du domaine arrivent difficilement à extraire du sable. Issa Togola, vendeur de sable au bord du fleuve Niger à Ségou.
Avant, on faisait l'extraction du sable d'ici à Sékoro, mais aujourd'hui, on l'extrait jusqu'entre Bayo et Farako. Il est difficile d'obtenir du sable en cette période d'hivernage, donc pour en obtenir, il faut aller jusqu'à ces niveaux.
Outre les difficultés d'extraction, le secteur est aussi menacé par la mauvaise organisation, mais aussi un manque à gagner, ainsi que le prix élevé du carburant, souligne certains extracteurs de sable.
Avant, on gagnait car en ce moment, il y avait moins de gens. Mais l'année passée, les prix ont baissé. Avant, on pouvait gagner 5 000 ou 6 000. Mais maintenant, ce qu'on y gagne maximum est 2 500. Sinon, si on était d'accord, ça allait marcher. Cela ne se passe nulle part d'autre si ce n'est pas à Ségou. On a essayé d'organiser en vain, mais rien.
En attendant la réorganisation du secteur, le prix du sable et le gravier continuent d'augmenter en cette période hivernale à Ségou. Le chargement de camion vendu à 15 000 francs CFA il y a quelques mois est cédé aujourd'hui. Aujourd'hui à 22 000 francs CFA. De Ségou, Mohamed Sissé pour Studio Tamani.
Alors de Ségou, rendons-nous à Kadjolo où une forte délégation de la compagnie malienne du textile CMDT a effectué une visite de terrain ce week-end dans le cercle. Selon la délégation, cette visite avait pour objectif de constater l'état de la campagne cotonnière 2022-2023 dans le cercle. Un entretien avec l'équipe locale d'encadrement de la CMDT et la visite de terrain ont été les points fort de cette visite de Kadjolo, retrouvant notre correspondant Mamoudou Sini Bari.
La délégation nationale de la CMDT a visité les sites de Diomaténé et Lofigué. Selon elle, le constat est mitigé. Cheikh Tidiane Doukré, directeur général adjoint de la CMDT.
La grande préoccupation, c'est celle qui réside en la présence de certains nuisibles au niveau du cotonnier. Ce sont des nuisibles qui, du reste, étaient connus dans le faciès parasitaire du cotonnier. Sauf que cette année, le grand changement est que leur présence a été constatée de façon précoce. Et la pression exercée sur le cotonnier aussi a été constatée très sévère.
Si les responsables de la CMDT considèrent cette situation de menace, les producteurs de coton on la compare à une pandémie du cotonnier. Adama Ouattara, producteur à Nyinansukurani.
Cette année, dans cette situation, on peut dire qu'on est tombé dans le gouffre, car je ne vois nulle autre part qu'on peut montrer où l'on peut cultiver du coton ou en obtenir. Si on atteint une certaine période au mois de septembre, même si ton champ de coton a bien fleuri, mais en ce moment, si les cotons ne mûrissent pas, alors cela veut dire que ta récolte ne sera pas bonne.
Toutefois, la CMDT entend développer d'autres stratégies de soutien aux producteurs qui seront affectés. Cheikh Tidiane Doukré, directeur adjoint de la CMDT.
Les gens s'inquiétaient un peu de leur capacité à rembourser le crédit. Et là, on a donné l'assurance que tout crédit calculé sur les recettes attendues de la campagne 2022-2023, mais qui poserait problème en matière de surendettement, on est prêt vraiment à rééchelonner.
Rappelons que la CMDT a déjà mis 50 000 doses d'insecticides Talis à la disposition des producteurs de coton du secteur de Kadiolo, afin de lutter contre les insectes piqueurs suceurs. Mamoudou Ousseini Bari, depuis Kadiolo, pour Studio Tamani.
S'agissant toujours de l'agriculture, le ministre du Développement Rural, Modibo Keïta, s'est prononcé la semaine dernière sur les prix de l'engrais. Selon lui, l'engrais subventionné cette année à hauteur de 17 milliards de nos francs ne représente que 15% des besoins des exploitants agricoles en matière d'engrais. Le marché non subventionné représente 85% des besoins des agriculteurs. Il précise qu'à cause du prix exorbitant de l'engrais sur le marché international, les opérations économiques ont exigé de l'État le paiement des arriérés de 2020 et de 2021. Écoutons Modibo Koné, ministre du Développement Rural.
La deuxième condition exigée à l'État d'acheter au comptant l'engrais subventionné cette année. Et la troisième condition, c'est de vendre le sac d'engrais à au moins 55 000 francs CFA, le sac de 50 kg. Je tiens à rappeler un fait très important. C'est que la subvention de l'État, qui est de 17 milliards cette année, ne représente que 15% des besoins des exploitants agricoles en matière d'engrais. Et le marché non subventionné représente 85% des besoins des exploitants agricoles. Les 85%, c'est de l'engrais qui est vendu au comptant par les opérateurs économiques. Et les 15%, c'est de l'engrais qui est vendu à crédit. Donc, il n'y a pas de ressources disponibles. Les opérateurs économiques traditionnels ont fait un calcul simple. Comme l'engrais est rare sur le marché international, ils se sont plus intéressés au marché libre.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
L'actualité régionale en brève, commençons par le nord du pays. En Songo, plusieurs bétails de toutes espèces confondues du village de Baziaosa ont été enlevés par des bandits armés non identifiés ce week-end à 7 km du village. Les forces de défense et de sécurité ont été informées dans l'immédiat, mais aucune poursuite n'est encore engagée selon des sources locales. Il faut rappeler que l'enlèvement d'animaux est très fréquent dans cette zone d'après les mêmes sources. Cap à présent sur le cercle de Bafoulabé ou à Tomora. Dans le cercle, trois enfants entre 8 à 10 ans ont été mordus par un chien enragé la semaine dernière. Selon des sources locales, le chien erre entre la brousse et le village depuis quelques semaines. Il est recherché par des chasseurs, mais reste jusque-là introuvable. L'inquiétude règne chez les parents car ils estiment que la maladie est incurable après contamination et que le vaccin contre la rage est coûteux. Les enfants mordus ont été admis au centre de santé de référence de Bafoulabé. Terminons ce tour d'horizon de l'actualité régionale par 100 où un élève de 20 ans admis au baccalauréat 2022 se serait donné la mort le samedi dernier au quartier Médine à 100. Selon une source parentale, Il a été découvert le matin suspendu à une antenne parabolique, alors que pendant la nuit, il était en compagnie de son ami au sein de la famille. Les autorités alertées se sont rendues sur les lieux pour faire le constat. Son ami, marqué par les faits, a piqué une crise et a été transporté à l'hôpital de Sens pour des soins. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances de la mort du jeune homme. C'est la fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. Mamadi Keïta assure la mise en onde. Ne décrochez pas car tout à l'heure vous aurez la version en bambara avec Aïssata Diarra. L'esclavage par ascendance dans la région des Kayes est le titre d'un rapport écrit par le sociologue Fodji Tanjigora après 2 mois d'enquête sur le phénomène dans plusieurs communes de la région. Dans cet ouvrage, publié ce vendredi 2 septembre à Bamako, l'auteur pointe du doigt les conséquences de la pratique qui, selon lui, laisse un avenir sombre aux jeunes de la région. Dans le livre, le sociologue propose des solutions à la fois aux populations mais aussi aux autorités. Docteur Fodji Tanjigora répond aux questions de Lalé Tangara.
Ce document est surtout une inquiétude par rapport à une situation qui est l'esclavage par ascendance. J'ai remarqué que tous les problèmes majeurs de ces pays commencent par un incident, deux incidents, ainsi de suite. Je me suis dit qu'il est extrêmement important que l'on fasse un regard sur le cas de l'esclavage pour que Kayes ne s'embrase pas comme le Nord l'a été au vu et au su de tout le monde.
Pouvez-vous nous parler un peu du contenu de cet ouvrage-là?
Alors, d'abord, nous traitons des manifestations de l'esclavage. Comment ça se manifeste et quelle est la place des religions, notamment de l'islam, parce que certains utilisent l'islam comme étant la cause. Au contraire, l'islam pousse les individus à émanciper leurs esclaves. Le deuxième constat, c'est au niveau des traditions. C'est là où il y a un problème. C'est-à-dire que pour les traditionnistes, ceux qui sont considérés comme esclaves, qui vivent sous ces statuts, ne peuvent jamais s'émanciper. Sinon, s'ils s'émancipent, on leur retire leurs terres parce que les terres leur ont été données parce qu'ils sont esclaves. Maintenant qu'ils disent qu'ils ne sont plus esclaves, nous leur retirons tous les avantages matériels et moraux dont ils jouissaient dans notre société. Donc, les traditions sont rigides ici et les gens ne veulent pas du tout changer. Ceux qui ont essayé de défier la tradition ont été chassés, certains ont été mis sous embargo, on leur vend absolument rien. Quand vous êtes descendant d'esclaves, et vous n'avez pas accès à la promotion sociale. Et la conséquence, on l'a exploré aussi, puisque la conséquence a été la séparation radicale des deux communautés au niveau du village. Ils ne prient plus dans la même mosquée, ils ne vont plus dans le même cimetière. Donc ça a entraîné tout un tas de dislocations au sein des unités domestiques, si bien que les gens ne veulent plus se voir. Nous attirons l'attention des pouvoirs publics pour prendre des décisions afin que ça n'explose pas comme ça a été au nord du Mali.
Que selon vous, le code pénal qui sera promulgué dans les jours à venir va arrêter comment l'esclavage par ascendance au Mali?
Alors, les textes juridiques vont peut-être réduire, mais la pratique va continuer. Pourquoi? Parce que déjà en 1905, c'était interdit. Ici, c'est une question de pratique et de code coutumier. Il ne suffit pas de prendre les textes et de s'arrêter à ce niveau-là.
Alors, que proposez-vous pour lutter contre l'esclavage par ascendance dans la région de Kayes?
Moi, j'aimerais que quand les décideurs politiques vont mettre en vigueur les textes, que ces textes soient accompagnés de sensibilisation en profondeur dans les villages, dans les localités où il y a la violence, pour dire désormais il y a un dispositif juridique que l'État dépêche des missions dans beaucoup de localités. L'État peut aller dans des villages où il n'y a pas de problème encore pour pousser les communautés à aller vers l'affranchissement symbolique à l'amiable avant que les tensions n'éclatent. Parce que nous n'intervenons que quand il y a problème. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes. Et aussi la mise en place d'une ligne verte pour dénoncer les cas d'esclavage par ascendance.